Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Amandine Bégaud. Bonsoir Amandine.
Et bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'RTL Soir, 2 heures d'infos, de débats et de décryptages. Et on va essayer de faire ça dans la bonne humeur. À la une ce soir, la vaccination peut être bientôt obligatoire. Jean Castex recevra jeudi les élus locaux pour en discuter. Objectif, éviter une nouvelle vague. Une cinquième vague est déjà en train de frapper l'Espagne. Nous irons sur place dans un instant. Dans l'actualité également, Éric Dupond-Moretti, convoqué par la Cour de justice de la République. Ce sera mi-juillet, le 16 juillet. Avant cela, Emmanuel Macron lui reçoit les partenaires sociaux, syndicats et patronats demain à l'Élysée. Parmi eux, Philippe Martinez, le patron de la CGT. Il est ce soir sur RTL et sera notre invité dans un quart d'heure. On ira aussi bien sûr sur le Tour de France. Journée de repos aujourd'hui, mais le club Jalabert est bel et bien là, fidèle au poste. Ce sera comme tous les soirs à 18h35 sur RTL et puis à 19h15, votre rendez-vous avec nos débats. Le monde tel qu'il est, la météo, c'est avec vous Louis Baudin, bonsoir.
Bonsoir Amandine.
Bon, on va finir par se fâcher, ça s'arrête quand ce temps de Toussaint?
C'est ça, oui, beaucoup sont fâchés avec moi.
Avec c'est ce pas vous, instable. Mais le ciel.
Notamment dans la moitié nord, dans le sud ça va mieux, mais dans le nord, oui c'est vrai que c'est encore très instable. Et ça le sera encore ces prochaines heures, puisqu'une nouvelle perturbation très active va traverser toute la France entre la nuit prochaine et la journée de demain. Cette nuit ça sera dans le nord et le nord-ouest avec beaucoup de vent. 100 km/h attendu sur le littoral de la Manche, 70 à 80 dans les terres. Et puis demain, cette perturbation, elle s'étalera le matin des Pyrénées au nord-est et l'après-midi près des frontières de l'Est. Il n'y a qu'entre la Côte d'Azur et la Corse où on échappera à cette nouvelle dégradation, accompagnée donc de nuages, de pluie, de vent fort et même d'orage l'après-midi. Le tout avec des températures toujours pas de saison. 17 à 19 degrés seulement près de la Manche.
Non,
19 à 22 degrés dans les autres régions de la moitié nord et même dans le sud-ouest. On est souvent 3 à 5 degrés en dessous des moyennes. Il n'y a que près de la Méditerranée où là on atteindra les 30 degrés.
Un peu normal quand même. Merci beaucoup Louis. On détaille tout cela à 18h30. À tout à l'heure.
RTL Soir.
Mais pour commencer, donc direction la région de Barcelone. Un mois après la levée des mesures restrictives, la Catalogne fait face à une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid. Une cinquième vague, oui, déjà cinq. C'est loin d'être une bonne nouvelle alors que la saison estivale vient de commencer, Aurélie Chamoura.
Oui, 18 000 nouveaux cas ces 7 derniers jours, en cause sûrement la traditionnelle fête de la Saint-Jean le 23 juin et le début des vacances. Pour Sylvia et Antonio, un couple de retraités, les restrictions ont été levées trop tôt.
Si on avait été un peu plus ferme, on n'aurait pas atteint les chiffres que l'on voit maintenant.
C'est l'été, c'est logique que les gens veuillent sortir, mais il faut mettre un peu d'ordre.
Les jeunes sont les plus touchés, mais ils estiment ne pas être les seuls à oublier les gestes barrières.
Je crois que c'est la faute de tout le monde, pas seulement des jeunes, car tout le monde sort dans la rue, tout le monde va faire la fête.
Vous avez dû vacciner les jeunes avant. On pouvait s'attendre à ce qu'il se passe maintenant et ça aurait été différent.
Les soignants demandent des restrictions d'urgence. Juan Pablo Orcajada est coordinateur Covid d'un hôpital barcelonais.
Je suis inquiet car l'indice de contamination est énorme. Il peut arriver un moment où les hôpitaux vont être saturés. Et là, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller car nous n'avons jamais vu un tel taux de contamination.
Le retour du tourisme festif aggrave sans doute les chiffres. Chaque soir, la police évacue des milliers de jeunes qui font la fête sur les plages, sans distance ni gestes barrières.
Aurélie Chamorro, la correspondante d'RTL à Barcelone, en Catalogne. 40% de la population a reçu les deux doses de vaccin. C'est un peu plus qu'ici en France. On est, on le rappelle, à 36%. Et justement, c'est pour éviter d'en arriver là face à une nouvelle vague que depuis plusieurs jours, médecins et politiques appellent chacun à se faire vacciner et vite. Jean Castex recevra jeudi des associations d'élus pour évoquer une éventuelle vaccination obligatoire. RTL vous le révélait dès la mi-journée. Des associations qui sont loin, très loin même d'être d'accord sur la question. Il y a les pour et pour tout le monde, à l'image de Michel Fournier, c'est le président de l'Association des maires ruraux.
Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des tergiversations quand on sait ce que ça représente au niveau engagement de l'État, de l'économie et puis de la santé collective. Voilà, on ne se pose pas de questions. À un moment donné, il faut aussi faire preuve d'autorité toute la population parce que quand on commence à faire des séparations, on oublie forcément des catégories professionnelles ou des gens. À un moment donné, ce qui est très important, ce n'est pas uniquement la santé individuelle, c'est la santé d'un pays. Je trouve que franchement, chez nous, on dirait on bricole.
Le président de l'Association des maires ruraux qui réclame donc ce soir la vaccination obligatoire et pour tous. Christophe Bouillon préside lui l'Association des petites villes de France et il est plus réservé.
Quand on arrive à l'obligation, c'est qu'on a échoué. Il y a sans doute quelques moyens différents d'aboutir à un résultat d'une meilleure couverture vaccinale. Autant j'ai été favorable lorsqu'on a rendu obligatoire les 11 vaccins indispensables, autant sur cette question-là, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de recul. On a différents vaccins d'ailleurs. Lequel rendre obligatoire ? C'est une vraie question. Il faut un appel très fort au sens des responsabilités. La déresponsabilisation par l'obligation, c'est aussi un mauvais signe dans une société qui a maintenant compris les effets négatifs de la Covid.
Des propos recueillis pour RTL par Jacques Seret. Vaccination obligatoire ou pas, ce qui est sûr, c'est que cette crise sanitaire continue de plomber les professionnels du tourisme. Les hôtels et restaurants ont rouvert, mais les patrons ont encore bien du mal à recruter. Illustration ce soir près d'Honfleur, au jardin de Coppelia, un établissement 4 étoiles où vous vous êtes rendu, Frédéric Veil.
27 chambres, un restaurant, un bar, un espace soins, massage et spa. Alexandra et son mari s'appuient sur plus d'une trentaine de salariés pour faire fonctionner leur établissement qui, pour les deux mois à venir, affiche quasiment complet. Mais voilà, les dernières semaines ont été plus que compliquées.
On a eu 7 personnes qui sont parties de l'entreprise. Certains ont complètement quitté la profession. Et cette reprise a été marquée par cette problématique-là. Oui.
Alors pour pallier ces départs, il leur a fallu gérer l'urgence et recruter.
Si vous avez une personne qui s'en va, ça met à mal l'équipe en entier. Donc que ça soit au service, que ça soit en cuisine, que ça soit en réception. Donc on a participé à la semaine du recrutement qui a été organisée par l'UMI au mois de mai, de manière à justement essayer d'aller chercher des profils très spécifiques et qui sont rodés aux questions de l'hôtellerie, restauration et qui ont des vraies compétences à apporter à l'entreprise.
C'est le cas de Carole, la vingtaine pétillante, récemment embauchée à l'accueil.
Ce qu'on m'a vendu pour le poste, et c'est vraiment ce que je voulais privilégier, d'autant plus après les nombreux confinements où c'est important de retrouver du relationnel qui manque, et c'est vraiment ce point-là qui m'a très attirée pour cet établissement.
Alors à l'ouverture de la saison touristique, il reste encore quelques postes à pourvoir dans cet hôtel de luxe où la gérante met un point d'honneur à fidéliser son personnel.
Nous, aujourd'hui, on essaye de vraiment créer une équipe qui soit familiale, qui ait une très bonne ambiance dans l'entreprise, que ça soit attractif. Il faut davantage payer, davantage organiser les horaires, les rendre moins extensibles. Enfin, c'est une vraie remise en question. Oui.
Et voilà, reportage signé Frédéric Veil dans la région d'Honfleur pour RTL. Dans l'actualité également ce soir, Éric Dupond-Moretti convoqué devant la Cour de justice de la République. Le rendez-vous est fixé au 16 juillet. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
C'est la suite logique après les perquisitions menées, on s'en souvient, la semaine dernière au ministère.
Oui, c'est vrai que l'enquête s'est accélérée ces derniers jours. Jeudi dernier, une vingtaine d'enquêteurs ont débarqué à la chancellerie. Perquisition pendant 15 heures. On a même fait ouvrir à la disqueuse de vieux coffres-forts dans le bureau du ministre. Son téléphone a été saisi. Le contenu de plusieurs unités centrales intégralement copié. Même sort pour les portables d'un certain nombre de conseillers. Les gendarmes sont encore sur place quand Éric Dupond-Moretti reçoit sa convocation pour le 16 juillet prochain. Comme si tout était décidé d'avance, persiflent ses avocats. Le garde des Sceaux va devoir s'expliquer. A-t-il profité de ses fonctions de ministre pour intervenir dans des dossiers pour lesquels il était dans une autre vie avocat ? Y a-t-il eu conflit d'intérêts dans deux dossiers en particulier ? L'affaire des Fadettes et une affaire de corruption à Monaco. Dans les deux cas, Éric Dupond-Moretti a ordonné une enquête administrative à l'encontre des magistrats.
Merci beaucoup Cindy pour ces explications. Cindy Hubert, spécialiste des questions de justice ici à RTL. 18h08, vous restez avec nous. On marque une toute petite pause et dans un instant sur RTL, les Français tous contaminés aux métaux lourds, et oui, même nos enfants.
RTL Soir. Amandine Bégaud. RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et à 18h10, la suite du journal, les coups de projecteur donc ce soir sur cette étude inquiétante. Nous sommes tous contaminés aux métaux lourds, arsenic, chrome, nickel, mercure. Nous en avons tous dans notre corps, tous, y compris les enfants. C'est ce que révèle Santé publique France. Bonsoir Sophie Joussin.
Bonsoir.
Et ça, c'est inquiétant.
Oui, l'étude a été réalisée à partir de prélèvements d'urine, de sang et de cheveux sur une population âgée de 6 à 74 ans. Et ces substances étaient présentes dans 97 à 100% des échantillons, avec des valeurs supérieures aux limites sanitaires pour l'arsenic et le cadmium. Alors ce cadmium, il est présent à l'état naturel dans la croûte terrestre, mais il l'est aussi dans certains engrais et donc dans notre alimentation. C'est par les céréales du petit déjeuner que les enfants y sont exposés et les adultes par le tabac. Quant à l'arsenic et le chrome, c'est notre consommation de poissons et de produits de la mer qui nous y expose, parce que mers et océans sont de plus en plus pollués et toutes ces substances peuvent être à l'origine de cancers et de maladies chroniques et des reins et du cœur.
Bon, et comment on fait pour réduire notre exposition à ces produits ?
Et bien, principalement en variant variant notre alimentation. Mmh. Par exemple, le poisson, plus il est gros, plus il contient d'arsenic. Donc vous pouvez alterner le thon, le saumon avec des poissons plus petits comme les sardines ou les harengs. Et puis pour le cadmium, c'est principalement la consommation de tabac qu'il faut freiner.
Plutôt sardine donc que thon ou saumon. On aura retenu la leçon. Merci beaucoup Sophie Jousselin. C'est l'homme le plus riche du monde. Jeff Bezos passe la main. Le patron d'Amazon laisse aujourd'hui sa place de directeur général à l'un de ses lieutenants. À 57 ans, il explique vouloir se consacrer à d'autres projets, à commencer par un voyage dans l'espace. Ce sera le 20 juillet. Alors attention, nous dit ce soir Benoît Berthelot, journaliste au magazine Capital et auteur d'une enquête sur Amazon. Bezos va continuer tout de même à suivre de près son empire.
C'est simplement un changement presque un peu cosmétique. Jeff Bezos va rester le président du conseil d'administration d'Amazon. Il reste aussi son premier actionnaire, donc il participera à toutes les grandes décisions stratégiques de l'entreprise, que ce soit des inventions de nouveaux produits, comme Amazon a pu faire Alexa ou les magasins sans caisse. Ça, c'est des choses qu'il continuera à faire. Simplement, il se détache de la gestion opérationnelle d'Amazon au jour le jour. En fait, ça fait déjà plusieurs années qu'il dit que son métier, c'est de prendre 3 décisions importantes par jour pour Amazon. Peut-être qu'il en prendra un peu moins aujourd'hui et qu'elles seront plus importantes.
Benoît Berthelot, auteur du Monde selon Amazon, grande enquête publiée aux éditions du Cherche Midi. Il était au micro RTL de Pierre Collin. Le coup d'envoi à présent du Festival d'Avignon, un festival forcément particulier, compte tenu de la crise sanitaire. Mais après plus d'un an d'arrêt, le monde du théâtre a ce soir le sourire. Dernière répétition, dernier réglage, c'est avec vous Étienne Baudu.
Oui, et comme tout bon festivalier, c'est un peu au hasard que j'ai poussé la porte du théâtre Carnot. Léa Amara et sa metteuse en scène, Marie-Pascale Austerlitz, mettent une dernière au réglage et à la lumière de son spectacle comique, Indomptable. Le festival Off débute après-demain, et c'est donc un peu l'effervescence.
Il va y avoir alternance de plein feu, et puis peut-être aussi à un endroit de pouvoir, quand elle est au centre, pouvoir réduire un peu sur elle.
Il faut aussi poser sa voix dans ce petit théâtre de 70 places.
C'est peut-être pour ça que j'ai voulu monter seule sur scène, pour être certaine d'être la seule à parler. Je vous raconte pas quand je l'ai annoncé.
Ah si bien ma fille, tu vas faire un spectacle toute seule. Mais pourquoi? Il n'y a plus personne qui va jouer avec toi. Toi, Tata, tu veux faire un One Man Show? Les yeux de ma tante dans la
rue. Bref, c'est l'ambiance qui monte avec cette année, un parfum un peu particulier.
Oui, forcément, là, c'est la grosse bouffée d'oxygène parce qu'on se retrouve ici à Avignon et c'était inespéré. On s'est toujours posé la question, ça va se faire, ça va pas se faire. Finalement, ça se fait. Il y a du public, on est heureux de rencontrer les gens et on voit des visages souriants même derrière les masques et ça, c'est inestimable, c'est magnifique.
Avec en plus les applaudissements, ceux que les comédiens n'ont pas entendus depuis plus d'un an.
Et on a hâte effectivement de les entendre, ces applaudissements. Étienne Baudu au Festival d'Avignon pour RTL, un festival qui a compté de l'automne 2022. Elle sera dirigée par Thiago Rodrigues, un metteur en scène portugais qui dirige aujourd'hui l'équivalent de notre Comédie Française. C'est lui qui a été choisi par Roselyne Bachelot pour succéder à Olivier Py. Notez d'ailleurs que la ministre de la Culture sera demain l'invité d'Alba Ventura sur RTL. C'est à 7h45. Sur le Tour de France, c'était relâche aujourd'hui, une journée de repos. Bienvenue après ces derniers jours difficiles entre la météo et l'intensité des premières étapes, les coureurs en avaient bien besoin, Nicolas Georgerot.
Oui, essayez de se ressourcer autant que possible. À Tignes, à 2100 mètres d'altitude, sous un ciel plus clément, le soleil est revenu. David Gaudu, deuxième français au classement, dixième du général, s'est évadé un peu ce matin pour se changer les idées.
Ça a l'air d'aller, j'ai été rouloter 1h30 aujourd'hui jusqu'à Val d'Isère, j'ai fait un aller-retour et du coup là, je suis allé rouler tout seul tranquille, un peu se libérer. Une bonne sieste, un bon massage et demain ce sera déjà l'heure d'une nouvelle étape.
Un test PCR dans la matinée, une boucle de 35-40 km à peine pour la plupart des coureurs, de la cryothérapie même pour certains afin de récupérer plus vite. Les kinés, les masseurs sont les stars de la journée. Benoît Costefroy appartient à l'équipe AG2R Citroën.
Les conditions météo sont vraiment pas faciles ces deux derniers jours et je pense que ça pèse quand même beaucoup dans les organismes. Une journée comme les deux derniers jours, il n'y a pas le droit d'avoir une fringale en plus qu'une forme qui est en dessous des grimpeurs. Quoi. Pas droit à l'erreur.
La remise en route sera cruciale demain avant d'aborder le Ventoux mercredi et il faudra au peloton gérer les écarts de température. Il devrait faire plus de 30 degrés en ce début de semaine.
Effectivement, ça s'annonce très chaud. Nicolas Georgerot sur le Tour de France pour RTL et relâche ou pas, on retrouve bien sûr tout à l'heure Christophe Paco et Laurent Jalabert pour le Club Jalabert. Rendez-vous comme tous les soirs à 18h35 sur RTL. Un petit mot de Wimbledon pour vous dire que Novak Djokovic s'est qualifié aujourd'hui pour les quarts de finale. Le numéro 1 mondial a battu le Chilien Garin, 20e mondial en 3-7, 6-2, 6-4, 6-2. Et puis la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
On peut, figurez-vous, gagner au quintet en se trompant de cheval. Louis Baudin, vous me regardez avec un air bizarre. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à un parieur breton. Il a, écoutez bien, remporté 289 503 euros. Tout ça en pariant sur le mauvais cheval. La suite, c'est le patron du Café des Sports de L'Envolon qui nous la raconte.
Comme tous les dimanches, il est venu faire son PMU. Il comptait miser sur, mettons, le 15. Et quand il a fait son ticket, il a coché le 14. Là, c'est vraiment la première fois qu'on a une aussi grosse somme. Donc, on lui a juste remis son chèque. Et puis, bah, il nous a remercié. Il a donné du pourboire. Et il avait une vieille voiture. Et je pense qu'il avait déjà comme projet d'en changer. Et je pense qu'il avait la tête sur les épaules et qu'il ne va pas tout mettre non plus dans la voiture.
Tête sur les épaules, mais tête en l'air quand même. Richard Brugidou, le patron du Café des Sports de L'Envolon, donc, où a été validé ce pari. Il était au micro RTL de Raphaël Thomas. C'est rigolo, non, Louis ?
Ah, c'est très drôle. Et puis, j'espère qu'il a bien regardé son ticket, parce que s'il n'avait pas regardé du tout en
pensant, oui, là, il aurait vraiment tout perdu.
Tout perdu.
Bon, comme quoi, la chance, ça existe. 18h17, RTL Soir se poursuit, bien sûr, dans un tout petit instant. Notre invité, Philippe Martinez, le patron de la CGT. À tout de suite.
RTL Soir. Amandine Bégaud. RTL Soir. Amandine Bégaud.
Et notre invité ce soir, Philippe Martinez, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général de la CGT, merci d'être avec nous ce soir. On va bien sûr parler vaccination dans un instant, réforme des retraites et cette réunion qui aura lieu demain à l'Élysée. Avant cela, je voulais avoir votre avis sur cette action d'attaque ce week-end à Paris qui a repeint en noir les vitrines de la Samaritaine qui avait ouvert quelques jours plus tôt. Anne Hidalgo a dénoncé sur Twitter un acte de vandalisme. C'est votre avis à vous aussi ?
Pas du tout, pas du tout. C'est un acte qui essaye de démontrer que la puissance de LVMH, des plus riches fortunes de France, et qui oublie de payer ses impôts, ou en tout cas qui fréquente les paradis fiscaux. Je pense que c'était une action symbolique que pratiquent ATTAC et d'autres ONG ou associations.
LVMH qui, au passage, a créé 3000 emplois, des logements sociaux, des crèches, avec la Samaritaine.
Je pense que tout le monde a oublié que à la Samaritaine, avant, il y avait des salariés qui ont été licenciés. Alors, on peut toujours dire « j'ai créé des emplois », mais on a reconstruit sur des ruines. Il y a des salariés qui ont été licenciés. Je pense que vous vous rappelez de ces images de salariés qui pleuraient parce qu'ils perdaient leur boulot. C'est bien de remettre tout ça dans son contexte.
Alors, venons-en à la vaccination. Et cet appel lancé hier par Laurent Berger, le patron de la CFDT, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui appelle les salariés à se faire vacciner. Il propose même de rendre cette vaccination obligatoire pour les salariés qui sont en contact avec le public. Vous êtes contre ce principe de vaccination obligatoire. Pourquoi ?
Oui, parce que il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi les gens ne se font pas vacciner avant de leur imposer quelque chose. Imposer, c'est jamais la bonne solution. Donc, il y a à convaincre plutôt que de obliger, notamment pour les personnels soignants. Moi, je trouve assez scandaleux qu'aujourd'hui on les montre du doigt après tout ce qu'ils ont fait depuis un an. Donc, pourquoi on n'essaie pas de comprendre les réticences. Et puis pour les autres salariés, il y a d'autres solutions. Tous les salariés ne sont pas complotistes. Quand vous allez faire vos courses, par exemple, ceux qui ont été en première ligne ou en deuxième ligne, il y a des horaires. On commence tôt le matin, on est des journées hachées, on finit tard le soir, on travaille le samedi. Ben pourquoi ? Et nous, la CGT, on l'avait proposé dès le mois de février, de donner une demi-journée aux salariés pour avoir le temps
d'aller se faire vacciner. Alors, ils peuvent aujourd'hui prendre le temps d'aller se faire vacciner avec l'accord, bien sûr, de leur employeur. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile, Philippe Martinez, d'aller se faire vacciner. Il y a des rendez-vous quasiment partout.
Mais posons la question à ceux qui n'ont pas le temps de se faire vacciner.
Au risque d'avoir une nouvelle vague. On a tout à l'heure entendu dans le journal de 18h,
c'est une cause nationale, le combat contre la Covid. Donc, quand il y a une cause nationale, on met tous les moyens. Et donc, on autorise les salariés à prendre le temps nécessaire. Parce que ce n'est pas qu'une question de rendez-vous. C'est que, je vous le répète, vous allez faire vos courses, je suppose. Vous savez, dans les magasins, on commence de bonne heure. On a deux heures, parfois trois, où on peut pas rentrer chez soi, on peut pas faire grand-chose, et on finit tard le soir. On travaille le samedi. Et puis le dimanche, on a envie de se reposer.
Donc, c'est possible sur les lieux de travail. Il y a les médecins du travail qui font cette vaccination, surtout dans les grosses entreprises.
Dans les grosses entreprises, voilà.
Mais vous me parlez de caissières, ce sont des salariés de grosses entreprises.
Il y a pas beaucoup
Carrefour,
de...
Carrefour, Auchan,
oui,
Leclerc.
Oui, on va pas donner de marque, mais je pensais au même que vous. Mmh. C'est des magasins où il n'y a pas forcément de la médecine du travail. Vous savez qu'il y a de moins en moins de médecine du travail.
Et alors ça, vous proposez ça, que ce soit fait dans les entreprises au maximum ?
Nous avons proposé, premièrement, dès le mois de février, de donner une demi-journée pour y aller. Et puis, dans les grands centres commerciaux, qu'il y ait des bus, par exemple, de la médecine du travail, qui viennent là où travaillent les gens, et puis ils pourraient sortir pendant le temps nécessaire pour aller se faire vacciner. On le fait dans les zones rurales. Pourquoi on ne le ferait pas dans des villes où il y a des concentrations de salariés, où il n'y a pas de médecine du travail, et on pourrait se faire vacciner? Il faut trouver des explications, il faut aller chercher à comprendre plutôt que d'imposer. Parce que si on impose, ça va encore générer beaucoup de tensions.
Convaincre plutôt que contraindre, dites-vous.
C'est ça.
Mais a-t-on vraiment le temps? Ça, c'est la question. Écoutez, Olivier Véran, c'était hier, il n'exclut pas une quatrième vague dès la fin du mois de juillet.
En Angleterre, ils sont passés de 2000 cas par jour à près de 25 000 cas par jour en l'espace de 4 à 5 semaines. Cette semaine, chaque jour, le virus a augmenté de 30 à 40%. Ça veut dire qu'on est à un niveau faible de circulation du virus, mais on n'a pas écrasé complètement l'épidémie et qu'on est payé pour savoir que ça peut repartir assez vite. On ne veut pas de vagues et on a aujourd'hui la possibilité de l'éviter.
Philippe Martinez, vous répondez quoi à Olivier Véran? Il joue à nous faire peur?
Il a sûrement des conseillers qui lui expliquent tout ça. Et puis on le voit à travers, il n'y a pas qu'en France qu'il y a...
Oui, c'est le cas en Espagne, au Royaume-Uni.
En Israël, où on a beaucoup vacciné. Donc, je pense que le sujet est sérieux. Donc, on prend les choses par le bon bout. On essaye de trouver des explications pour convaincre les gens. Et puis, c'est aussi un problème qui se gère au niveau de la planète. Parce que on va avoir... Alors, on les appelle par des lettres, maintenant. Mais il y a
des
beaucoup...
Variants.
Les variants. Mmh. Dans beaucoup de pays au monde, eux, c'est pas du temps qui... C'est des vaccins qu'ils ont pas. Donc, il faut aussi faire de la prévention au niveau de la planète. Et par exemple, libérer les brevets sur les vaccins pour permettre à des populations ou des pays plus pauvres d'avoir accès à la vaccination, ça évitera d'avoir de nouveaux variants. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut gérer. Et je pense qu'on est dans un pays qui devrait avoir le poids nécessaire dans le monde pour traiter de ces questions-là.
Alors, c'est sans doute un sujet qui sera abordé demain à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit, je le disais, l'ensemble des partenaires sociaux. Il sera aussi question de la réforme des retraites. Vous allez dire quoi au président, hors de question de nous en reparler?
Vous savez, on n'a pas changé d'avis. Donc on était contre... Il y a un an et demi, ça fait beaucoup de mobilisation. Moi, vous savez, il y a deux choses. Premièrement, je ne comprends toujours pas, et personne n'arrive à m'expliquer, comment, en faisant travailler plus longtemps ceux qui ont du travail, on va libérer du travail pour ceux qui n'en ont pas. Ça,
sauf qu'il faut bien financer la retraite de ceux...
C'est autre chose. Et puis, il y a un sondage, là, vous regarderez si vous avez le temps, qui est sorti ce week-end. La CGT s'est fait prendre par la gauche. La majorité des Français souhaitent la retraite à 58 ans.
Et 66% en tout cas sont contre l'allongement de la retraite, je crois.
Donc la moyenne des Français souhaite avoir la retraite à 58 ans, et chez les plus jeunes, c'est-à-dire chez les moins de 35 ans, ils la souhaitent à 56 ans. Par contre, ils considèrent tous qu'ils auront des pensions plus faibles qu'avant. Donc traitons la question du financement et pas celle de l'âge. Le financement, c'est quoi? C'est les cotisations sociales. Plus de monde au boulot, c'est plus de cotisations. Augmentation des salaires, c'est plus de cotisations.
Mais vous allez dire quoi, Emmanuel Macron, demain? Vous réenclenchez ça, on redescend dans la rue?
En tout cas, si il veut nous faire travailler plus longtemps, ça risque de mal passer. Et je pense que, on en parlait tout à l'heure, on a autre chose à faire que d'avoir des affrontements de ce style. Réglons le problème de l'emploi des jeunes, réglons le problème des salaires des deuxièmes lignes. Ça, c'est des sujets importants. La réindustrialisation, les services publics. Tout ce dont on a parlé pendant le confinement, qui était des atouts pour la France, eh bien, travaillons là-dessus plutôt que de remettre de l'huile sur le feu avec la question des retraites.
Hier sur RTL, François Bayrou, le président du Modem, proposait qu'on organise un référendum sur cette question. Il disait que la réforme des retraites, ce serait peut-être la première réforme du deuxième quinquennat, si deuxième quinquennat il y a, mais que derrière, il faudrait faire un référendum, au moins ça mettrait d'accord tout le monde. C'est une bonne idée, ça?
Vous savez, les référendums, ça dépend de la question que vous posez. Si vous posez une question...
Pour ou contre l'allongement de la retraite à 64 ans, par exemple?
Contre la retraite à 64 ans, pourquoi pas?
C'est le nom qu'il emporte d'après vous?
En tout cas, on fera tout pour que ça soit le nom. Mais les mobilisations de l'année dernière et les sondages d'opinion montrent que les Français ne sont pas aussi bêtes que ceux qui nous dirigent essaient de le faire croire. Ils savent que quand on travaille dans des conditions pénibles, je pensais aux soignants, vous imaginez une infirmière qui aurait l'âge des résidents en EHPAD pour s'occuper d'eux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le travail, c'est important, mais il y a autre chose que le travail dans la vie.
C'est un bon outil, en tout cas, le référendum, pour trancher ce genre de débat-là.
Demander l'avis des gens, oui, c'est très bien. C'est très bien. On le demande pas assez souvent, d'ailleurs.
Si vous aviez une autre question ou une chose sur laquelle interpeller demain Emmanuel Macron, ce serait quoi, en deux mots?
Quand est-ce qu'on passe de la parole aux actes sur la réindustrialisation du pays, contre les délocalisations? Parce que je constate qu'il y a encore beaucoup de délocalisations. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit pendant le confinement, les belles paroles, eh ben, on recommence comme avant. Je croyais qu'il fallait plus faire comme avant. C'est la question que je lui reposerai demain.
Merci beaucoup Philippe
Merci
Martinez d'être passé ce soir dans le studio d'RTL avant donc cette réunion et qui est prévue demain à
10h30.
11h, ah, ça a changé d'heure.
Ah oui, ça
11h,
change tous
c'est
les jours.
Une info. Merci beaucoup Philippe Martinez. Bonne soirée à vous. Vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, on va parler Tour de France, le Club Jalbert. À tout de suite.
RTL Soir. Amandine Bégaud.
Il est 18h30.
RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et à la une, l'essentiel de l'actualité, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics clos en Angleterre, et ce, à partir du 19 juillet. C'est ce qu'annonce à l'instant le Premier ministre Boris Johnson, qui tient en ce moment même une conférence de presse. Il doit annoncer la levée des dernières restrictions liées au virus. Ici en France, c'est la question de la vaccination obligatoire ou pas pour les soignants ou pour tout le monde qui fait débat. Jean Castex recevra jeudi les élus locaux pour en discuter. L'objectif, c'est d'éviter une quatrième vague qui pourrait avoir lieu dès la fin juillet. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dans l'actualité également ce soir, Éric Dupond-Moretti convoqué devant la Cour de justice de la République. Ce sera à la mi-juillet, le 16 juillet. Convocation qui est une suite logique après les perquisitions menées la semaine dernière au ministère. Et puis Emmanuel Macron, lui, recevra les partenaires sociaux demain, syndicats et patronats à l'Élysée. Rendez-vous à 11h. Il s'agira notamment d'évoquer la question des retraites. Du côté du Tour de France, c'était repos aujourd'hui, mais dans un tout petit instant, on retrouvera le Club Jalabert. Avant cela, Louis Baudin, la météo et une nouvelle perturbation. Encore une, ça ne change pas, va traverser la France avec beaucoup de vent près de la Manche. Attention.
Exactement, hein, c'est plutôt une dépression type mois d'octobre plutôt que pendant l'été, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, attention au vent qui va souffler tout au long de la nuit sur le littoral de la Manche. On atteindra probablement les 100-110 km/h entre le nord de la Bretagne et le Cotentin et entre 70 et 80 dans les terres du Val-de-Loire jusqu'au Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France. Donc ça, durant la nuit, associé évidemment à de la pluie. Demain, cette même perturbation au réveil, elle aura progressé. Donc on la retrouvera des Pyrénées aux frontières du Nord-Est jusqu'à la région Rhône-Alpes avec encore des nuages, de la pluie, voire de l'orage. Après son passage dans le Nord et le Nord-Ouest, on aura un petit répit le matin. Puis hop, les averses reprendront de plus belle en cours d'après-midi, notamment près de la Manche, avec encore quelques rafales de vent. Perturbation qui, l'après-midi, restera bloquée entre les Pyrénées et la région Rhône-Alpes. Seule zone un peu épargnée par tout ça, bien toujours les mêmes, à la Côte d'Azur et la Corse, où là, ça restera ensoleillé. Puis les températures, toujours pas de saison, 17 à 22 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 22 degrés également dans le sud-ouest. Hein, donc ça baisse sensiblement dans ces régions du sud-ouest. Il n'y a que près de la Méditerranée où on frôlera encore les 30 degrés.
Oui, ça va continuer comme ça longtemps?
Et ça va continuer, peut-être pas longtemps, mais encore un peu, puisque mercredi, encore des averses quasiment partout, sauf entre la Côte d'Azur. Alors pas toute la journée quand même, hein. On l'a vu, il y a des moments de répit entre deux averses pour essayer d'avoir quelques bonnes nouvelles. Même chose pour la journée de jeudi. Et puis quand même entre vendredi et samedi, un petit répit, mais je vois d'autres averses revenir déjà à partir de dimanche. Et tant que nous aurons ce régime océanique, et bien les températures dans la moitié nord auront du mal à grimper.
Voilà, un automne sans fin en fait.
C'est ça, c'est un peu ça, mais bon, si on va avoir la fin.
On va y arriver un jour.
Allez, on va y arriver.
Merci Louis, à tout à l'heure. Et à 18h, bientôt 34 sur RTL, il est grand temps de retrouver Club Jalabert. Bonsoir Christophe Paco, vous êtes en place?
Mais bonsoir à vous et bonsoir à Louis Baudin. Dites-lui que le soleil est revenu à Tignes, c'est la principale info depuis une semaine.
Bah oui,
il fallait en profiter. Hein.
Ce sera plus le cas demain.
Merci Louis, plaisir. Club Jalabert ouvert comme tous les soirs, vous connaissez la formule. Un seul numéro de téléphone, le 3210 standard ouvert pour venir dialoguer en direct avec Laurent Jalabert et puis deux invités, deux coureurs français. Il est dixième du classement, le jeune David Coduc, encore plein d'espoir, pourquoi pas gagner une étape d'ici l'arrivée sur les champs. Et le dernier français au classement, pas mal ça, juste avant 19h. Voilà la galère des coureurs, il est à près de 2h maintenant du maillot jaune Tadej Pogacar. Clément Russo sera avec nous juste avant 19h. A tout de suite sur RTL.
RTL, Tour de France 2021.